Voilà, si vous voulez bien, on va s'y remettre. Alors, dans ce deuxième temps, je commence à vous plonger dans les textes de Paul. Utilisation de votre petit livret jaune. Vous avez un premier document qui est ce que j'ai raconté ce matin. Hop, il s'en va. Il n'y a que la bibliographie qui peut vous intéresser tout à l'heure. Un deuxième document qui s'appelle Paul, fondateur d'église ecclésiale. Premièrement, la vocation de Paul, ça va? Alors, ce deuxième document, c'est le plan et l'essentiel du reste de la journée, avec une première page qui est cette fin de matinée, et derrière, deux pages qui sont les deux moments, trois pages, qui sont les deux moments de cet après-midi. Et pour chacun de ces trois temps, vous avez ensuite des documents qui sont les textes que nous allons lire. Donc là, vous prenez le troisième document, Galates 1 et 2. C'est ça que nous allons lire. Et il y a ensuite un tableau chronologique dont je vous parlerai. Ça va? Donc ce qui compte là, c'est le texte des Galates. Alors, on plonge dans le récit que Paul fait de sa propre rencontre avec le Christ, avec en arrière-plan évidemment les récits des actes des apôtres. Et ce qui nous intéresse bien sûr, ce sont les différences. Vous vous souvenez du récit des actes des apôtres? Il y en a trois. Il y en a un en acte 9 où c'est le narrateur qui raconte. Et puis par deux fois dans les actes des apôtres, au chapitre 22 et au chapitre 25, vous avez Paul lui-même qui raconte la même histoire, son chemin de Damas, une fois devant un public juif à Jérusalem, de gens qui lui sont très hostiles, et la deuxième fois au chapitre 26, devant le procurateur, le préfet romain, Festus, et devant le roi ou petit roi Agrippa II, un descendant des Hérodes, et sa sœur, demi-sœur, demi-tante Bérénice. Donc là, il s'adresse plutôt à un monde qui est davantage du côté gréco-romain. Donc trois récits dans les actes des apôtres, et qu'est-ce qu'on retient de ces récits? Évidemment, le côté spectaculaire, d'un Paul renversé sur la route de Damas par la vision, illuminé par la vision, il entend une voix. Bon, le tableau du Caravage, là, vous le voyez en mauvaise définition, il faut aller le voir sur place, évidemment, c'est un éclat de lumière étourdissant, avec ça que Paul n'est jamais tombé de cheval. Et que dans les représentations, il fallait être vraiment très riche ou très... très riche ou appartenir à un corps de cavalerie romain pour avoir un cheval. Dans les représentations antérieures au XIIe siècle, c'est-à-dire antérieures aux croisades qui ont ramené le cheval en Occident, Paul tombe par terre en chemin. Et on a aussi des enluminures comme celle-ci ou d'autres où il y a un Paul tout plat allongé sur la route. Bon, il tombe par terre, ça c'est clair. Mais dans tous les cas, ça rend bien compte du récit de Luc qui est une mise en scène dramatique et spectaculaire. Un événement, tout d'un coup, un homme renversé, bouleversé, ce qui est juste, mais dont on voit la manifestation extérieure. L'autre caractéristique du récit de Luc, acte 9, c'est qu'il s'agit d'une conversion du persécuteur, du juif pharisien persécuteur, à la foi chrétienne, et que cette conversion va se faire grâce à des médiations. On a le sentiment que Paul entre dans une église déjà constituée avec ses procédures et ses rites. D'abord, il tombe sur la route, il a la vision, mais il est aveugle, donc on le relève, ses compagnons l'emmènent par la main, je pense que ça ne lui plairait pas du tout qu'on raconte des choses comme ça. Ses compagnons l'emmènent par la main à Damas. À Damas, ce n'est pas lui du tout qui reçoit la vocation de la part du Seigneur. C'est un dénommé Anani qui va servir au fond d'orientateur, de prescripteur, qui reçoit l'ordre du Seigneur d'aller voir Paul et à qui le Seigneur annonce que Paul devra être envoyé non seulement vers son peuple mais au-delà vers les païens. Anani vient trouver Paul et la première chose qu'il fait, c'est lui annoncer le don de l'Esprit le don de l'Esprit Saint, et donc un baptême, ça va toujours ensemble dans les actes des apôtres, dans n'importe quel sens, mais ça va ensemble. Il est baptisé, un baptême qui se dit sous forme d'illumination, puisque des écailles lui tombent des yeux, et après, Paul se met à prendre des forces et à manger, donc est-ce que c'est un repas du Seigneur? Enfin, on voit bien qu'on est déjà dans les rites d'initiation et d'entrée dans la foi chrétienne. Je rappelle ça et je dis aussi que dans les discours que Paul fait lui-même, alors ce sont des discours écrits par l'auteur des Actes, hein, ce sont pas des... la même histoire est racontée avec des variantes. Une fois les compagnons entendent la voix et ne voient pas la lumière, une fois les compagnons voient la lumière mais n'entendent pas la voix. Enfin, il y a des variantes. Mais dans les récits, dans les discours qui sont mis dans la bouche de Paul, il y a quand même des tonalités, j'allais dire, plus pauliniennes, puisque c'est Paul lui-même, dans le temple de Jérusalem, qui, comme le prophète Ésaïe, a une vision et que le Seigneur envoie à son peuple d'abord, mais ce peuple ne te recevra pas. Donc on a une espèce de reprise de la vocation d'Ésaïe en Ésaïe 6. Et alors je t'envoie vers les païens pour que tu annonces ma parole. Donc il y a là quelque chose, un accent plus paulinien. Ce que je voudrais vous les montrer, c'est qu'on a là le travail de Luc, et ce qui est resté dans la mémoire chrétienne, au fond, c'est l'événement de Damas. Tout le monde sait que Paul s'est converti sur le chemin de Damas. Bon, c'est cette espèce d'image spectaculaire d'un retournement radical, et le fond est vrai. Il y a eu un retournement radical du pharisien arrogant et persécuteur qu'était Paul. Quand je dis ça, je ne dis pas que tous les pharisiens étaient arrogants et persécuteurs, hein. Il apparaît clairement, quand on travaille, et on travaille beaucoup aujourd'hui sur le monde pharisien, que Jésus était proche des pharisiens. Dans l'évangile de Luc, on voit même des pharisiens essayer de sauver l'affaire quand Jésus entre à Jérusalem et que les foules l'acclament. Les pharisiens lui disent « Reprends tes disciples », ils savent que ça va mal finir. On sait dans l'histoire qu'en 62, après Jésus-Christ bien sûr, mais au moment où Paul est en train de sortir de la scène, mais enfin c'est quand même très tôt, au moment où les prêtres du temple, les Sadducéens, les grands prêtres, exaspérés par Jacques de Jérusalem à la tête de la communauté chrétienne de Jérusalem, poussent le peuple à le lapider, les pharisiens avaient fait une démarche pour essayer de l'en empêcher. Voilà, donc je ne dis pas que tous les pharisiens étaient hostiles. Il y avait dans les pharisiens des courants, et Paul appartenait à un courant particulièrement rigoriste, arrogant et sûr de lui. Ça, on le voit très bien. Il dit qu'il... Alors, il n'y a pas de rancœur de la part de Paul. Il dit qu'il était parfait, meilleur que tous les autres, on va le lire. Mais ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que quand Paul lui-même raconte l'histoire, ça a une autre allure. Et donc, il faut tenir les deux pour essayer de comprendre un peu mieux, au fond, qu'est-ce qui lui est arrivé. Dans la lettre aux Galates, il va commencer par deux narrations, trois, plusieurs narrations rappelant aux Galates qu'il a évangélisé, vers qui il revient maintenant dans cette lettre, rappelant des événements de son propre passé. Pourquoi fait-il cela? Parce qu'il est mis en cause et qu'il est en train de se défendre. C'est une lettre de combat. C'est une lettre de combat où Paul défend quoi? Eh bien, d'abord la vérité de l'évangile, mais comme c'est lui qui leur a annoncé l'évangile, il défend aussi bien sûr l'authenticité de sa vocation et de son apostolat. Il est en train de se défendre lui-même. Alors, pourquoi? Paul a annoncé à ses Galates du Nord, les Galates autour d'Ankara, en Syrie, hein, entre la Cappadoce, la mer Noire et Ankara actuellement, une espèce de triangle. C'était des... Alors, les Galates, c'est des Gaulois. Hein. C'était des Celtes qui s'étaient, depuis quelques siècles, installés là, et qui avaient une partie des Celtes, les autres sont allés plus à l'ouest, et qui avaient des rois, et Rome avait au fond soumis ses rois. Finalement, le dernier roi disparaît en 25 avant Jésus-Christ, c'était quand même assez récent quand Paul arrivait. Il y a 75 ans avant, les Galates étaient indépendants, donc ils étaient sous la botte romaine, plutôt loin de Rome, et c'est essentiellement des polythéistes. Le judaïsme avait peu pénétré dans ces coins de Galatie, même si on le connaissait. Ils accueillent Paul à bras ouverts et avec beaucoup, beaucoup de sollicitude. Il dit qu'il était malade, qu'il avait, je ne sais pas quoi, une maladie des yeux et que les Galates l'avaient soigné avec beaucoup de bonté et de bienveillance. Et ces gens qui sont quand même des gens qui sont, se sentent un peu méprisés à l'écart des grands courants du monde romain, des grands courants à la fois commerciaux, économiques, culturels, etc. Et qui sont des dieux traditionnels de la nature et de leurs ancêtres, vont se sentir tout à fait valorisés, heureux d'accueillir finalement la prédication de Paul qui leur dit qu'ils sont des fils de Dieu à égalité tous et que désormais ils sont aimés, qu'ils ont une immense dignité, etc., etc. J'étais pas là, mais il a dû leur dire des choses comme ça. Bon. Donc ça forme plusieurs petites communautés. Il les appelle les églises de Galatie. Je ne sais pas s'il est allé à Ancyre, mais c'est des petites villes, des villages. Il y a eu plusieurs communautés. Paul repart plus loin, va vers l'ouest, et probablement quelque temps après, arrive en Galatie, ça on l'apprend en lisant la lettre, hein, des prédicateurs, d'autres missionnaires, d'autres évangélisateurs, judéo-chrétiens. Des chrétiens, hein, des gens qui prêchent Jésus-Christ, mais qui viennent du monde juif très jérusalémite, peut-être autour de Jacques de Jérusalem ou d'autres, et qui s'étonnent que les Galates n'observent pas la loi juive. Certes, tout le monde croit en Jésus-Christ, mais pourquoi n'observent-ils pas la loi juive? Et ils annoncent aux Galates que c'est très important, parce qu'on a au moins des garanties, des preuves dans la chair de la foi qu'on mène, si on passe par l'observance des rites juifs, la circoncision pour les hommes, pour tous, la séparation des tables, les rites de la casseroute, et puis un certain nombre de fêtes, etc. Les Galates, bon prince, du moment qu'il y a quelque chose de précis, de clair, qui va les valoriser un peu, ils acceptent, et donc ils vont commencer à se faire circonscrire et à observer les rites juifs. Paul l'apprend, évidemment, il fait une crise de colère que sa lettre reflète. Il y a vraiment certainement une colère folle de Paul contre ces prédicateurs chrétiens, judéo-chrétiens, mais qui sont venus sur ces brisés, les tourner vers le rite juif. Et donc, il écrit aux Galates dans cet état d'esprit, mais c'est la vérité de l'évangile qui s'adresse à tous sans condition, que vous êtes en train d'annihiler. C'est plus l'évangile sans condition, s'il faut se faire circoncire ou s'il faut tel ou tel rite pour. De plus, ça aussi ça apparaît quand même en filigrane dans la lettre, ces prédicateurs ont mis en cause l'authenticité de la mission de Paul. Qui est-il celui-là? Vous vous rendez compte? Il n'a pas connu Jésus dans les jours de sa chair. Il n'a pas été un de ceux que Jésus a choisi, ni un de ceux que Pierre a pu récupérer après l'expérience de la résurrection. Qui est-il? D'où vient-il? Qu'est-ce qu'il sait? Qui l'a adoubé? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas un vrai, attention, méfiez-vous. Alors du coup, défendant la vérité de l'évangile par pure grâce et sans condition, Paul défend aussi l'authenticité de son envoi par le Seigneur Jésus-Christ. Ça va ? Donc, les circonstances de la lettre sont très importantes pour comprendre même l'écriture de ce texte. Il y a des moments où il n'arrive plus, je ne sais pas comment a fait le scribe qui écrivait sous sa dictée, mais il y a des moments où il n'arrive plus à construire ses phrases. Alors, en français, on traduit, on arrange un peu les phrases, mais il y a des phrases dans le texte grec qui ne tiennent pas la route. Donc, il écrit la lettre dans un état de tension certainement très grand. Il y a une vraie grossièreté à la fin. Une vraie grossièreté à la fin, puisqu'il dit aux Galates, si vous voulez vous faire circoncire, allez vous faire châtrer. Hein. Bon, on peut s'en passer entre frères dans l'amour fraternel, c'est pas nécessairement nécessaire de dire des choses comme ça. Paul sait déraper hein, quand il faut. Il sait déraper. Voilà. Elle y est. Et à la fin, comme dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il dit qu'il signe de sa main, vous voyez ces grosses lettres, c'est moi qui les écris, je signe. C'est vraiment une lettre de combat. Et il faut la lire dans cet esprit-là. Alors, le récit de son envoi par le Seigneur et de son action nous permet de décider au fond ce qui, pour Paul, et je crois en vérité, fait l'authenticité d'un apostolat et de l'annonce de l'évangile, ce que j'ai appelé le trépied, et on va en parler, l'appel de Dieu, la vitalité des églises, la communion avec les apôtres de Jérusalem. Mais on va lire tout ça et on y reviendra. Alors, sur le PowerPoint, j'ai mis quelques passages de la lettre. Vous avez l'intégralité du chapitre 1 et du chapitre 2 sur votre document. Voilà. Je le lis, j'ai mis des choses en gras, pas beaucoup, quelques prépositions. Évidemment, elles ne sont pas en gras dans le texte, ça, c'est pour vous les faire remarquer. Toute lettre paulinienne commence par une salutation. Et ça, ce n'est pas seulement les lettres pauliniennes. Les lettres qu'on a aussi profanes de la vie courante ont très souvent une salutation. Il y a l'enveloppe, d'abord, il faut bien une enveloppe pour une lettre. Et l'enveloppe, c'est le destinateur, ça vient de qui ? Les destinataires et une salutation. Voilà. Et on a ça ici, Paul, de la part des envoyés, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi, aux églises, alors ça c'est les destinataires, aux églises de Galatie, destinataires, et la salutation, à vous grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Première remarque, les destinataires, c'est Paul et tous les frères. Et la plupart des lettres de Paul, en tout cas les lettres authentiques, nomment au début plusieurs personnages, au moins deux. Dans le monde juif, il faut deux témoins pour que ce soit recevable et véridique. Pour que leurs paroles soient recevables en justice, il faut deux témoins. Donc Paul et les autres. Tous les frères qui sont avec moi, je ne suis pas tout seul. Il s'inscrit tout de suite dans un collectif. Il n'est pas un électron libre, même s'il l'est un peu. Bon. Ensuite, il se croit obligé de dire par qui il n'est pas envoyé. C'est une drôle de façon de faire. J'ai plus le texte, mais il faut... Quand on est envoyé par quelqu'un, on ne commence pas par dire « je ne suis pas envoyé par un tel, mais par un tel ». Vous dites que je suis envoyé par. Il y a une autorité, elle vous envoie. Non. Ni par de la part des hommes, ni par un homme. Donc, il refuse toute médiation. Et ça va continuer un peu plus tard. Mais par Jésus-Christ et par Dieu. Et un peu plus loin, si vous descendez d'un coup d'œil au verset 11, ça y est sur le PowerPoint, il dira « l'Évangile que je vous ai annoncé, n'est pas d'après un homme, ni en passant par un homme. Il épuise toutes les prépositions de la langue grecque qui indiquent une médiation. Voilà. Il n'y a pas de médiation, c'est en direct. Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est au moins ça qu'il affirme. C'est le contraire du récit de Luc dans les Actes des Apôtres. Alors ensuite, vous avez une espèce de quelque chose accroché à la salutation qui est courante chez Paul, hein, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ, une salutation qu'on retrouve partout ailleurs et dans d'autres lettres, qui allie la salutation romaine, salut, kairé, avec la grâce, charis qui s'y rapproche, et la paix, ça c'est la salutation juive, le shalom. Elle est courante. Mais il accroche à ça, plutôt au Seigneur Jésus-Christ, une profession de foi qui va varier d'une lettre à l'autre. La plus simple, c'est celle de 1 Thessalonicien, que Dieu a réveillé d'entre les morts, que Dieu a réveillé, relevé, ressuscité. Ici, elle est assez compliquée et c'est probablement une salutation qui vient de milieux judéo-chrétiens pour bien montrer que non, il n'est pas autre, il est bien dans le même circuit qu'eux. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nos péchés de façon à nous arracher à ce monde présent mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui est la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Une espèce de petit couplet liturgique, un peu surprenant, c'est pas trop d'habitude la profession de foi de Paul, là ça l'est. Alors ensuite, dans une lettre paulinienne, vous pourrez vérifier, vous attendez une action de grâce après la salutation. Eucharisto, je rends grâce au Seigneur, je remercie Dieu. On remercie Dieu pour les dons qu'il a fait aux hommes et pour ce qu'il nous a donné dans son Fils. Puis, quand on a bien remercié Dieu, on exhorte. Paracalo, la paraclèse, je vous exhorte à être à la hauteur ou à essayer d'être à la hauteur de dons reçus. C'est même le schéma normal de la prière juive et de la prière chrétienne. On commence par louer et par bénir pour le don de Dieu, Puis après, on dit, bah, faut faire un petit effort quand même pour l'accueillir convenablement. Voilà. Et c'est caractéristique des lettres de Paul, d'autres lettres aussi. Or, on peut mesurer, au fond, la température des relations entre Paul et l'Église à laquelle il écrit par la dimension de l'action de grâce par rapport à l'exhortation. Dans la première lettre aux Thessaloniciens, où ça baigne à peu près, vous avez trois gros chapitres d'action de grâce, trois petits chapitres d'exhortation. Tout va bien. Dans la première lettre aux Corinthiens qu'on va regarder cet après-midi, vous avez 10 lignes d'action de grâce et puis 13 chapitres d'exhortation. Ça commence à aller mal. Ici, il n'y a pas d'action de grâce. Ça a disparu. Il y a la fureur de Paul qui attaque tout de suite. Je m'étonne que vous vous détourniez aussi rapidement de celui qui vous a appelé par sa grâce, c'est Jésus, pour passer à un autre évangile. Il n'y en a pas d'autre. Seulement, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'évangile du Christ. Il faudrait mettre un E majuscule à évangile là, pour répondre à votre question. Or, même si quelqu'un, nous ou un ange du ciel, vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc voilà, il y a la violence dans ce début. L'évangile, c'est celui que je vous ai annoncé, on ne va pas vous raconter autre chose. Bon. On ne va pas tout lire, je passe un peu. Et vous voyez qu'un peu plus loin, au verset 11, Paul recommence. L'évangile qui vous a été annoncé par moi n'est pas à très noble, etc. Et à partir de là, il va raconter son histoire. Comme témoin véridique de cet évangile qu'il leur a annoncé. Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Ça témoigne. Ce qui m'est arrivé, ça témoigne. Dans la première lettre aux Corinthiens, il y a un kérigme comme ça, un grand kérigme, un Corinthiens 15, qui est les grandes premières professions de foi chrétienne. Hein. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu, le Seigneur Jésus-Christ est mort, enterré, ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, il est apparu à un tel, un tel, un tel, nous en sommes témoins. Les grands schémas de la foi chrétienne, le kérigme d'un Corinthiens 15 est un kérigme assez complet, certainement déjà bien mis en forme dans une église. Or, à la fin du kérigme, Paul se glisse dedans. Et à la fin, il m'est apparu à moi-même l'avorton. Autrement dit, pour lui, et il a raison, le témoin fait partie de l'annonce. Le témoin fait partie de l'annonce. Et jusqu'à ça, je crois que c'est vrai. C'est au fond la vie du témoin qui annonce. Ce n'est pas un message qu'on transmet comme ça, écrit dans un coin et on vous transmet le papier. C'est « je fais partie de l'annonce en tant que témoin et c'est ma façon de vivre qui est annonce ». Ça, je crois que pour Paul, c'est important et c'est ce qu'il va faire ici en racontant son histoire. Alors, son histoire, elle commence au verset 13. « En effet, vous avez entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme. Je persécutais à l'excès, là on a les mêmes mots dans les Actes des Apôtres, hein, l'Église de Dieu. » Et j'ai cherché à la détruire. Et je faisais des progrès dans le judaïsme, plus que la plupart de ceux de mon âge, dans ma race. Aujourd'hui, on ne traduirait plus ma race, j'ai pris la vieille traduction de la Torah, on traduirait dans ma tradition. En débordant de zèle pour les traditions de mes pères. La fierté de Paul le pharisien. J'étais meilleur que les autres. On dit parfois, à la suite de Nietzsche, Paul a abandonné la loi juive pour suivre le Christ à cause d'une espèce de rancune, de ressentiment, parce qu'il dit tout le contraire quand il se bat. Personne ne peut observer complètement la loi. La loi, c'est pas possible, elle vous condamne parce que nécessairement, quelque part, on n'est pas parfait dans l'observation de la loi. Mais c'est pas vrai, il dit que lui, il était parfait. Il n'a aucun ressentiment, aucune mauvaise conscience. Il était meilleur que tout le monde, et il le dit aussi dans les pharisiens. Excellent. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Ce qu'il dit, hein, débordant de zèle. Alors, le zèle, il va le garder, il va le transposer, mais il va le garder. Le zèle, c'est la passion amoureuse et jalouse. Hein. C'est fort en grec. Le verset 15 et 16 doit être gardé de près. « Mais quand Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, a jugé bon de révéler son Fils en moi, afin que je l'annonce parmi les nations, aussitôt, je ne me suis pas réclamé d'une autorité humaine. Et je ne suis pas monté à Jérusalem auprès de ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti en Arabie, puis de nouveau, je suis revenu à Damas. » Tiens, ça se passe à Damas. Quelque chose se passe à Damas, c'est là qu'il revient. Reprenons le verset 15. Quand Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce à juger bon. Dieu qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce, c'est mot à mot la vocation de Jérémie dans la Septante, chapitre 1, verset 4-5. Jérémie dit que Dieu l'a mis à part dès le ventre de sa mère et l'a appelé par sa grâce pour l'envoyer chez les nations païennes. Ça va continuer. Hein. Regardez Jérémie. C'est aussi largement, à peine démarqué, la vocation du prophète serviteur d'Ésaïe au chapitre 49. C'est Dieu qui lui dit « Je t'ai mis à part, je t'ai appelé, je t'ai mis à part dès le ventre de ta mère ». Autrement dit, Paul est en train de s'inscrire tranquillement dans la suite des grands, grands prophètes d'Israël. Les grands prophètes d'Israël, c'est quand même d'abord Ésaïe et Jérémie. Il s'inscrit dans la suite des prophètes. Il a une vocation prophétique. Et une vocation prophétique, eh bien, c'est quelque chose qui vous habite depuis votre naissance. Alors, un jour, Dieu a jugé bon de faire quelque chose. Quand ? Ben, vous ne saurez pas quand. C'est quand Dieu a jugé bon. Voilà, un jour il a décidé. Dieu a jugé bon de révéler son Fils en moi. Vous allez dire que je triture les mots, mais quand même, révéler son Fils en moi, on est dans l'ordre d'une révélation. Il a déjà parlé un peu plus haut de « par une révélation de Jésus-Christ ». Donc ce que Dieu lui révèle, c'est bien Jésus comme Fils. De se crucifier, qu'il méprisait, qu'il horrifiait d'ailleurs. C'était horrible, un crucifié pour le monde juif. On le dira mieux cet après-midi. Mais le crucifié, c'est un maudit de Dieu. On n'a pas à me raconter que c'est un messie quand même. Donc ce crucifié qu'il détestait, tout d'un coup, il voit que c'est l'envoyé, le Fils même de Dieu. Après, c'est une révélation. Alors révélation, c'est apocalypse en grec. C'est vraiment la révélation de là où va le monde. L'Apocalypse, c'est la révélation des fins dernières, de ce qui en sera de la fin, de ce qui va arriver. Révélation, celui-là, c'est le Fils de Dieu, et c'est l'ultime révélation. Ensuite, il faut peut-être regarder quand même aussi la construction bizarre, révéler son Fils en moi. Pourquoi pas simplement me révéler son Fils ? Je pinaille, mais révéler son Fils en moi, moi je pense que Paul a fait aussi en même temps l'expérience de sa propre filiation. Il n'est pas seulement le pharisien serviteur du Dieu unique qui fait absolument tout ce qui convient, tout ce qu'il faut selon la loi, qui est parfait, parfait, parfait. Il est Fils bien-aimé, lui le persécuteur. Il fait une expérience de filiation. Il le dit un peu plus loin dans la lettre. Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, pour que nous recevions la filiation. Pour que tous nous recevions la filiation. Il l'a reçu, il se reconnaît comme fils, donc aimé de Dieu, quel qu'il soit, quel qu'il soit. Et c'est donc ça qu'il va annoncer. Et de fait, le but de cette affaire est clair. Afin que je l'annonce parmi les nations, qui est un mot qui signifie les païens. Afin que je l'annonce parmi les nations. Vous remarquerez que là, tout est dit de l'aventure que nous avons pris l'habitude d'appeler le chemin de Damas, sans qu'il y ait de Damas, sans qu'il y ait de chemin. Et en plus, grammaticalement, c'est dans une proposition subordonnée. Quand Dieu, et encore une cascade subordonnée. Quand Dieu, qui m'a mis à part, a jugé bon de révéler son Fils en moi, afin que, on n'a pas encore le but de l'affaire. Voilà. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Un événement intérieur, probablement, bien sûr, pas nécessairement dramatique et spectaculaire. Intérieur, un retournement complet, ça c'est sûr, Luc a raison, un bouleversement total d'une vie. Mais comment ? Instantanément ? Sur quelle durée ? À quelle époque ? Où ? Voilà. Où, quand, comment ? Vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. C'est Dieu qui a jugé bon. Il faut l'interroger. Et au fond, ce sur quoi Paul met l'accent, c'est-à-dire ce qui est la, j'allais dire, la proposition principale, on va retourner à l'école primaire de la phrase, c'est son mauvais caractère. Aussitôt, je ne suis pas monté à Jérusalem auprès de... Je ne me suis pas réclamée d'une autorité humaine et je ne suis pas montée à Jérusalem auprès de ceux, etc. Donc, j'ai rien à faire avec eux, ce qui est faux. Mais sa première réaction, sa première affirmation, c'est « Je ne dépends certainement pas d'eux. Voilà, c'est pas eux qui m'ont envoyé, d'ailleurs je ne voulais même pas les voir. » Mauvais caractère. Affirmation, quand même. C'est pas...
C'est un peu orgueilleux.
Ah oui, un peu beaucoup, bien sûr, mais c'est moi, madame. Non mais... Paul est un homme, je ne vais pas vous présenter une statue de saint parfaite. Il est un homme avec ses défauts, son caractère, il avait sûrement un très fort caractère, passionné. Il a été un pharisien arrogant, le Seigneur a beau le retourner, il reste quand même quelqu'un. Voilà, il reste quand même quelqu'un très, très sûr de lui, très fier, très... Et il le dit, en tout cas, il a une dent contre ceux de Jérusalem, ça c'est sûr. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que, voilà, il va parler ensuite de communion. Mais ceux de Jérusalem, on ne peut pas dire qu'ils soient spontanément portés d'une amitié profonde envers eux. Donc il n'y est pas allé. En tout cas, il vous fait savoir qu'il n'y est pas allé. Et ce qui compte, c'est que je ne me suis pas réclamé d'une autorité humaine. Personne ne m'a nommé, et ça, ils s'en vantent. Ils s'en vantent. Alors que dans les Actes des Apôtres, bien sûr, il est renversé sur le chemin de Damas, mais c'est ensuite Barnabé qui le présente à Jérusalem, et comme il est mal vu, qu'il renvoie à Tarse, qu'il va le chercher à Tarse, qu'il l'introduit dans l'église d'Antioche, et dans l'église d'Antioche, au chapitre 13, ce sont les anciens de l'église d'Antioche qui imposent les mains à Barnabé et à Paul pour les envoyer en mission. Donc, vous voyez, tout est fait dans l'ordre, en obéissance, et là, d'un coup, ils cassent tout ça. Qui n'a pas encore été écrit. Il dit le contraire, d'avance. Voilà. Il faut le regarder comme ça. Son but, c'est de montrer qu'il est envoyé par Dieu. Alors, il n'y va pas, il fait la mauvaise tête, etc., etc. Bon. Il n'empêche que il finit par y aller. Ensuite, verset 18. Après 3 ans, je suis monté à Jérusalem pour m'enquérir de Kephas. C'est pour moi un vrai problème. Hein. Pourquoi, quand il parle de Pierre, sauf une seule fois dans la lettre, mais ici, comme dans les Corinthiens, Paul l'appelle toujours Kephas, qui est le nom symbolique en araméen de Pierre, Petros en grec. J'ai vraiment un problème avec ça. Je vous livre le problème. Si quelqu'un comprend, il me dit. Mais je suis en train d'interroger un certain nombre de gens, de juifs, connaisseurs qui devraient me donner des réponses. Ça veut dire ça, alors non, ça veut dire la pierre, le rocher. Ça veut dire le rocher. C'est pas un mot très fréquent et c'est pas un nom. Pas plus que Petros en grec d'ailleurs. Ça est devenu. Enfin, c'est un peu étrange. Ça veut dire le rocher. Mais hein, il l'appelle comme ça. Je suis monté pour m'enquérir de Kephas et je suis resté auprès de lui 15 jours. Alors, la question c'est, il y va, il finit par y aller. Il y a donc une nécessité interne pour qu'il y aille. Alors, il a mis le temps, il a mis 3 ans, bon, il a le temps de cuver sa mauvaise tête. Mais enfin, il y va, et c'est ça la chose importante. Il y reste 15 jours. Qu'est-ce qu'ils font pendant 15 jours? Il y a un exégète britannique qui disait très joliment, pendant 15 jours, ils ont dû parler d'autre chose que du temps qu'ils faisaient. Et à mon avis, il fait ses classes, là. Il apprend. Jésus dans les jours de sa chair. Qu'est-ce qu'ils font pendant 15 jours? Il ne le dit pas. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Ce Jacques de Jérusalem qui, dans les Actes, est au chapitre 15, celui qui prend la décision qui, visiblement, présidait après le départ de Pierre à la destinée de l'église de Jérusalem. Et puis, on voit qu'il se débat contre des accusations, et là, c'est là que je vous disais, le texte n'est pas clair, il est écrit quand même sous le coup d'une colère, d'une passion. Ce que je vous écris, voilà en face de Dieu que je ne mens pas. Personne n'a accusé de mentir, que je sache. Ensuite, je suis venu dans les régions de Syrie et de Cilicie, mais j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, ils avaient entendu dire, celui qui nous poursuivait naguère annonce maintenant la foi qu'il détruisait alors. Et il glorifiait Dieu à mon sujet. Voilà. Le récit que Paul vous fait de son chemin de Damas. Chacun le... Imaginez comment les choses se sont passées. il en fait un récit, évidemment, sous le coup de la colère, évidemment orienté, mais il n'y a pas beaucoup plus. Si vous voulez un petit peu plus d'éléments, vous allez voir Philippiens 3, le début de Philippiens 3, où il est aussi sous le coup de la colère parce qu'il se bat aussi, où il y a aussi un peu des injures contre les prédicateurs judéo-chrétiens, et où il dit à peu près la même chose dans des termes qui n'ont rien de précis sur les circonstances. Il y a eu un renversement. Passons à la suite. On va laisser passer 14 ans. Alors, vous pouvez toujours essayer de discuter, ça se discute entre spécialistes. Est-ce que c'est 14 plus 3 qui font 17 ou est-ce que c'est 14, 3 compris? J'en sais rien. En tout cas, ça fait du temps. Ça fait du temps. Même si on voyage en bateau et à pied, en 14 ans, il a vraiment le temps d'avoir parcouru du chemin. Et beaucoup de chemin. Et aller-retour vers les églises jusqu'en Grèce, en Turquie, en Grèce, et retour à Tarse ou à Jérusalem. Alors, on lit la suite. Ensuite, après 14 ans, je suis montée à nouveau à Jérusalem en emmenant aussi Tite avec moi. Tite était le fils d'un... D'un père et d'une mère, d'un père grec. Il était grec, Tite. Son père était grec, et donc c'était un craignant Dieu, devenu disciple du Christ grâce à Paul, et qui donc n'était pas circoncis. Et donc, quand il introduit Tite comme un responsable dans les groupes où il y a des judéo-chrétiens, on lui demande la circoncision de Tite. Dans les Actes des Apôtres, on a le schéma inverse : Timothée, fils d'une mère juive, qui devient disciple de Paul et que Paul va faire circoncire pour répondre aux exigences des judéo-chrétiens. Donc on voit bien que voilà, dans les Actes, Paul accepte, ici avec Tite il refuse. Il y a eu des tas de bagarres sur des personnes précises, sur qu'est-ce qu'on fait autour de cette question de la circoncision et de la loi de Moïse. Je vais vous lire le début du texte qui suit, qui évidemment ressemble et fait songer, même s'il y a des gens qui discutent, au chapitre 15 des Actes des Apôtres, quand Paul va à Jérusalem pour dire, après son premier voyage missionnaire, donc un temps assez court, il est allé juste un peu en Syrie, en Turquie, est-ce qu'il faut ou non, est-ce qu'on a le droit ou non de baptiser des païens sans les circoncire? Dans les Actes des Apôtres, il vient poser la question. On a quand même le sentiment qu'il a déjà fait des choses sans rien demander à personne. Enfin, il fait profil bas et il vient poser la question. Ici, on a la même question qui se pose, mais pas dans les mêmes termes. Je suis montée d'après une révélation. Donc 14 ans après, il lui faut une révélation pour finir par aller à Jérusalem. Une révélation, je ne sais pas ce que c'est, mais moi je pense que c'est quand même l'Esprit Saint qui l'a poussé par les épaules, qui lui a dit « maintenant tu y vas ». Et je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations. Qu'est-ce que ça veut dire, je leur ai exposé l'évangile que je proclame parmi les nations? Il apparaît clairement que cet évangile ne contient pas l'exigence des rites de la loi juive. Évidemment, pas la circoncision, la cache-route, etc. L'évangile qu'il proclame parmi les nations, c'est il n'y a ni juif ni grec, tous fils et filles de Dieu dans le Christ Jésus. Et tous un, sans plus de distinction et sans condition. Et il va l'exposer à Jérusalem. C'est donc pas ça qui se passe dans les Actes des Apôtres. Et puis, il y a un bémol. Mais je l'ai fait en particulier à ceux qui sont considérés, aux notables, donc aux responsables de l'église de Jérusalem, de peur de courir ou d'avoir couru en vain. La suite est une série de phrases où on va voir que on était dans une tension extrême. Le vocabulaire est un vocabulaire de guerre et de combat. Les phrases ne tiennent pas toujours debout. Mais même Tite, mon compagnon, qui est grec, ne fut pas contraint à la circoncision. C'était à cause de faux frères, des intrus qui s'étaient introduits pour espionner notre liberté, celle que nous avons en Jésus-Christ, pour nous réduire à la servitude. À cela, nous n'avons pas cédé, même pour une concession momentanée, afin que la vérité de l'évangile demeure pour vous. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce bazar? C'est qu'il est en train d'injurier ses faux frères, ses intrus, c'est du vocabulaire guerrier, hein, qui s'étaient introduits pour espionner notre liberté. On est quand même dans la bagarre, la grosse bagarre. Alors, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, il n'a pas cédé, même pour une concession momentanée, et il n'a pas fait circoncire type. Et la raison, c'est que la vérité de l'évangile demeure pour vous, vous les Galates, qui êtes des païens non circoncis et à qui l'évangile est adressé. Ça marche ? Alors, après cette phrase un petit peu bousculée, ce qui est aussi étonnant, c'est qu'il écrit ça un bon moment après, puisque, entre-temps, il s'est passé quelque chose. Et quand il écrit aux Galates, il rappelle le passé. Mais malgré tout, ce rappel est dans un état de tension et de combat encore présent qui est assez étonnant. Ensuite, les choses s'apaisent. Ensuite, les choses s'apaisent et il va raconter finalement à quoi a abouti la rencontre. Mais de la part de ceux qui sont considérés, puis un petit coup de patte, ce qu'ils étaient alors, peu m'importe, Dieu ne regarde pas la situation des hommes. Dieu ne fait pas exception de personne, il ne regarde pas si vous avez du pouvoir ou non. En effet, ceux qui sont considérés ne m'ont rien réclamé de plus. Voilà. Moi, je n'ai pas réclamé, je ne me suis réclamé d'aucune autorité humaine et ils ne m'ont rien réclamé. Voilà. Mais au contraire, alors là, ça devient un petit peu solennel. Voyant que l'évangile des incirconcis, je traduis l'annonce de la bonne nouvelle, c'est ça l'évangile, aux incirconcis, aux païens, m'était confié à moi, comme à Pierre, celui des circoncis, l'annonce de la bonne nouvelle aux juifs circoncis. En effet, celui qui avait agi en Pierre pour l'envoyer auprès des circoncis avait agi aussi en moi pour les nations. Et connaissant la grâce qui m'a été donnée, Jacques, Képhas et Jean, ceux qui sont considérés comme des colonnes, nous donnèrent la main à Barnabé et à moi en signe de communion, afin que nous allions, nous vers les nations, eux vers les circoncis. Seulement, nous devions nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien pris soin de faire. Voilà. Apaisement, transaction, il s'est passé quelque chose et il a été, au fond, accueilli, reconnu par ceux qui sont considérés, il dit même ceux qui sont considérés comme des colonnes. Donc il reconnaît qu'il y a à Jérusalem des hommes que l'on peut considérer comme des colonnes de cette foi en Jésus, naissante, qu'il est en train, lui, d'annoncer parmi les païens. Il y a vraiment, là, une reconnaissance forte. Il considère qu'alors, il y a eu reconnaissance mutuelle, et une reconnaissance, en fait, très forte. Par contre, quand ce qu'il dit, l'évangile des incirconcis m'était confié à moi, le verbe m'était confié, c'est le verbe de la foi. J'ai été accrédité pour ça. Dieu a eu foi en moi, comme il a eu foi en Pierre. On est toujours piégé dans les traductions en français des mots grecs, notamment dans les lettres pauliniennes, mais même dans les évangiles, autour de la foi. Parce qu'en français, on a 40 mots. Foi, confiance, fidélité, crédit, vous voyez ? Et c'est des croire, et c'est en plus c'est des mots de radicaux. Souvent différents, tout ce qui est de croire, crédit, tout ce qui est de foi, fidélité, confiance, se ressemble. Alors qu'en grec, au moins dans ces textes chrétiens, on n'a qu'un seul vocabulaire, celui de la foi. Et donc c'est le même mot qui est employé pour le crédit que Dieu fait à Paul et à Pierre, et la foi que l'on peut avoir en Christ ou en Dieu, ou la fidélité que Jésus a pu avoir au Père, etc. C'est vraiment un mot très très lourd. Ça lui a été confié. Finalement, Dieu a cru en lui comme il a cru en Pierre. Et il y a une espèce de partage des hommes de mission, on va dire, puisque Paul s'en va vers les païens et Pierre vers les juifs, les circoncis. Vous allez me dire, il a la grosse part et Pierre la petite part. C'est pas si sûr. C'est pas si sûr. Parce que effectivement, ce qu'on voit à travers les deux lettres de Pierre, donc ils sont sous la mouvance de Pierre, quand même des communautés qui plus tardivement se réclament de lui, c'est qu'on est plutôt vers l'est de la Turquie, vers le pont, vers la Syrie. Et les traditions autour de Pierre, même si elles le font mourir à Rome, vers 65 peut-être sous Néron, on n'est pas sûr, les traditions autour de Pierre, et qu'il est parti vers des routes juives, des synagogues juives et des comptoirs juifs de marchands vers l'est. Tandis que Paul s'en va, je vous le disais tout à l'heure, vers l'ouest, où majoritairement le monde romain a relativement peu de juifs. Il y en a quand même beaucoup, hein. Il y en a quand même beaucoup, infiniment plus qu'aujourd'hui. Mais bon, Paul va directement quand même s'adresser à des païens. Et entre eux, et avec Jacques de Jérusalem, ils vont recevoir et donner une main de communion. Alors, je m'arrête sur ce mot communion, parce que c'est un mot très important chez Paul. Dans le Nouveau Testament, il existe chez deux auteurs. Dans la première lettre de Jean, où il est parlé de communion, de ceux qui croient en Jésus, les frères. Et chez Paul, où le mot de communion, alors dans les Actes des Apôtres aussi, où la communion c'est le partage des biens, avec les bémols que je vous ai dit tout à l'heure. Et chez Paul, c'est vraiment le partage par le chrétien de la vie, mort et résurrection du Christ. Et quand on se donne une main de communion, on se reconnaît les uns les autres disciples du Christ vivant, mort et ressuscité. C'est très très fort. Et ça n'a rien de sentimental. Et ça n'a rien du groupe des amis avec qui on se sent bien. Je maintiens, et Luc le montre dans les Actes des Apôtres, dans la fin des Actes, et là-dessus, il a raison, d'autant qu'il n'aime pas faire ce genre de choses, que Paul détestait Jacques de Jérusalem. Voilà. Paul détestait Jacques de Jérusalem. Croit vraiment qu'il ne pouvait pas le supporter. Ce gars qui était resté complètement dans le judaïsme, enfermé, qui ne voulait pas entendre difficilement l'évangile aux païens. Je pense que la tension entre eux était très forte. Au chapitre 21 des Actes des Apôtres, quand Paul arrive à Jérusalem, Jacques est là et lui finalement l'accueille plutôt mal. On lui dit qu'il a baptisé, des païens sans les faire circoncire, qu'il n'a pas respecté les décrets, qu'il ne connaissait d'ailleurs pas. Et finalement, on l'envoie dans le temple où la foule juive, la foule est montée contre lui pour l'accuser d'avoir introduit des païens dans le temple. On le fait sortir, il va être lynché et c'est le tribun romain qui le sauve. Et Jacques de Jérusalem, on n'entend pas parler. Il a laissé faire. Voilà, les tensions entre eux sont fortes, c'est sûr. Mais la main de communion, c'est pas ça. C'est pas on s'aime et c'est pas les bisounours. Et c'est même pas des sentiments. C'est la reconnaissance de l'égale dignité de l'autre en Jésus-Christ devant Dieu. Et là-dessus, on ne transige pas. L'autre est différent de moi, mais il a une égale dignité devant Dieu et en Jésus-Christ. Et là-dessus, Paul ne transige pas, même si je maintiens qu'il n'a aucun sentiment positif pour Jacques de Jérusalem, pas tellement plus pour Pierre, on va le voir tout à l'heure. Mais avant de revenir à Pierre, je reviens sur cette histoire de la montée à Jérusalem au bout de 14 ou 17 ans. Dans les Actes des Apôtres, je vous l'ai dit, c'est après un premier voyage missionnaire assez court qui le conduit juste au fond à Antalya, un port au sud de la Turquie actuelle. Il remonte un peu jusqu'à Iconium, puis il redescend et il rentre. Un voyage missionnaire réel où il a fondé des communautés chrétiennes, mais assez bref. Et on voit Paul revenir alors avec Barnabé à Jérusalem où ils sont pris à partie par des pharisiens et d'autres qui leur disent, voilà, vous ne pouvez pas baptiser, annoncer l'évangile à des gens qui n'observent pas la loi de Moïse, etc. On va porter ça devant le conseil. Et là, le conseil tranche. Nous avons, l'Esprit Saint et nous avons décidé. C'est donc très au début des voyages de Paul. Tout ça, c'est dans le chapitre 14. Ensuite, les grands voyages de Paul, ça sera de 16 à 21, puis son dernier voyage à Rome. Voilà. Donc, au début, on va dire, de la carrière de Paul. Paul, lui, dit qu'il est allé à Jérusalem au bout de 14 plus 3, 17, ou simplement 14 ans. Ce qui ne peut pas contenir seulement un voyage assez bref en Turquie. Ce qui nécessairement contient au moins le second voyage qui le mène jusqu'en Grèce. Et quand il dit qu'à Jérusalem, il leur a exposé l'évangile qu'il annonce parmi les païens, il monte avec au fond dans sa besace l'existence de communautés chrétiennes, disciples du Christ, fondées dans des populations païennes, bien vivantes, qu'il vient apporter à Jérusalem en disant « Et alors cela, qu'est-ce qu'on en fait ?» Il a derrière lui des églises pagano-chrétiennes, déjà fondées à Thessalonique, à Philippe, à Corinthe, peut-être même à Athènes, bien vivantes, et c'est ça qu'il vient apporter à Jérusalem. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a, dans l'apostolat de Paul et dans le schéma missionnaire, un trépied. Il y a le fait que Dieu l'a appelé, c'est une vocation personnelle, vocation prophétique, sans intermédiaire. Mais il y a en second lieu la vitalité d'églises fondées, d'églises du Christ, qui témoignent que l'évangile a été reçu. Paul ou pas Paul, l'évangile est là, il a été reçu parmi des païens qui ne sont pas circoncis et ils en vivent. Et puis, il y a le troisième pied qui est cette montée à Jérusalem d'un Paul qui faisait la tête, qui grognait, qui traînait le pied, qui d'après une révélation finit par y aller après longtemps, mais fort de ses églises, pour une communion avec ce Jérusalem. Et on voit bien qu'il y a là, comme dans cette première montée 3 ans avant, une nécessité interne à sa foi au Christ. Il ne peut pas continuer à annoncer la foi en Jésus-Christ s'il n'est pas en accord profond, pas sentimental, mais sur le fond, avec ceux de Jérusalem qui sont les témoins, j'allais dire, historiques du Christ, de Jésus incarné, vivant dans les jours de sa chair. Sinon, Paul aurait inventé, pour le coup, une religion autre du Seigneur ressuscité. Il serait parti vers une espèce de religion spiritualiste. Il faut qu'il revienne s'ancrer avec ceux qui, finalement, avec cet ancrage juif du Nazaréen, représenté par les apôtres de Jérusalem. Et je crois que c'est le troisième trépied de son apostolat et qu'on ne peut pas enlever un de ses pieds sans que ça s'effondre. Voilà, ça c'est important. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes pour terminer la lecture de cette partie du chapitre 2? Oui, alors là je vous dis, une question de datation. Deux points de vue impossibles à harmoniser. Pour Luc, la décision de baptiser les païens est prise officiellement à l'unanimité à Jérusalem par l'église assemblée autour de Jacques et Pierre au retour du premier voyage missionnaire de Paul. Faut dater vers 40, 42, on ne sait pas, peut-être un peu avant. Pour Paul, qui a pris l'initiative en franc-tireur de fonder des églises chez les païens, la régularisation, je suis un peu méchante, a lieu 14 ans après, au retour d'un second voyage missionnaire à Jérusalem en 52. On a ici un exemple de cette lecture du passé, cette relecture des événements et des réalités de la mission chrétienne, avec deux points de vue contradictoires et contradictoires jusque dans la datation. Alors vous allez me dire qui a raison. Je ne sais pas moi qui a raison. Moi, je penche plutôt vers Paul, que je ne le vois pas montant à Jérusalem pour demander gentiment est-ce que je peux. Mais voilà, on a une incohérence et il ne faut pas essayer d'harmoniser les choses. On a deux points de vue, des partis pris différents. On est devant des œuvres littéraires qui sont des œuvres méditées, pensées, où les auteurs savent ce qu'ils font. Eh bien, voilà ce qu'ils choisissent de faire pour montrer quelque chose. Voilà. Il faut accepter cette béance et se dire qu'on n'est pas obligé de tout savoir et de tout comprendre. Bon. Ceci dit, il y a un troisième récit dans l'histoire que Paul raconte. Donc, premier récit, sa vocation. Deuxième récit, la rencontre à Jérusalem. Troisième récit, très court, l'altercation à Antioche avec Pierre. Paul a passé pas beaucoup de temps à Antioche et visiblement dans son dernier une année avec Barnabas, son dernier séjour à Antioche, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé à Antioche. Je vous lis le texte. Mais quand Képhas, à nouveau, vint à Antioche, je m'opposais à lui. Alors je prends le texte complet. Ici. Parce qu'il était dans son tort. Voilà. Et en grec, c'est clair. C'est un participe parfait qui dit « il était condamné ». Donc l'affaire est jugée d'avance. Ça c'est Paul. En effet, maintenant on vous raconte quand même. Avant que viennent des gens du parti de Jacques de Jérusalem, ils mangeaient avec les païens. Donc il avait abandonné, je traduis, les lois de la cacheroute. Il mangeait des viandes impures, on va dire, ailleurs. Mais quand ils furent arrivés, il se dérobait et se mettait à l'écart par crainte des circoncis. Pierre a eu peur des gens du parti de Jacques venus de Jérusalem. Voilà. Et donc, il s'est un peu caché, quoi. Mais du coup, les autres juifs, alors quand il dit les autres juifs, c'est les autres judéo-chrétiens. Hein. On est dans un monde chrétien, là, il n'est pas question. Tous y sont baptisés, tous ces gens-là. Les autres juifs rentrèrent aussi dans son jeu. Et le mot grec rentrer dans son jeu, c'est être hypocrite, hypocritesse, parce que l'hypocrite, c'est d'abord l'acteur qui joue la comédie. L'hypocrite, en grec, c'est l'acteur. Donc, en gros, ils se sont tous mis à jouer la comédie. De sorte que Barnabé lui-même fut entraîné dans leur jeu. Alors, on peut traduire gentiment « jouer la comédie » ou on peut traduire méchamment « a été hypocrite », comme on veut. Mais évidemment, Paul va crier. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit vers la vérité de l'Évangile, voilà l'expression qui revient, quand je vis qu'il ne marchait pas droit vers la vérité de l'Évangile, je dis à Képhas devant tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, puisque tu mangeais avec eux, non à celle des juifs, comment peux-tu maintenant contraindre les païens à judaïser? Tu ne peux pas te dédire comme ça, dire le contraire de ce que tu as fait, ce n'est pas possible. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir la réponse de Képhas et d'avoir le débat, évidemment. Évidemment, tout le monde attend, et qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Eh bien, on ne le saura jamais, parce que Paul ne le raconte pas, que Pierre ne le raconte pas. Voilà. Donc vous ne saurez jamais, vous pouvez imaginer. Alors, imaginez quoi? Imaginez que Pierre a dit, ça suffit maintenant, tu es en train de tout casser, laisse-moi faire, je vais arranger les choses. Imaginez quoi? Que Paul l'a emporté et a viré Pierre qui est parti l'oreille basse. Alors moi, je vais vous dire, si ça s'était passé comme ça, si Pierre était parti l'oreille basse et que Paul avait gagné, Paul l'aurait raconté. Oui. Donc, je conclue que c'est pas lui qui a gagné. Il n'a pas eu gain de cause. Il a fait son sermon, il a bien dit, il n'a pas eu gain de cause. Alors, si on regarde les choses de plus haut, à long terme, c'est évidemment Paul qui a raison et qui a gagné. À long terme, il va rester des judéo-chrétiens assez longtemps, et même jusqu'au 3e, 4e siècle. Des groupes minuscules, voilà, intégrés au monde chrétien, vivant. Et la séparation avec le judaïsme va être plus longue que ça dans le peuple. On vit ensemble. Mais à long terme, les chrétiens vont essentiellement recruter dans le monde païen. Les gros bataillons chrétiens à partir du 2e siècle, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ça va grandir. C'est le monde païen, c'est l'Empire romain, évidemment. Donc, à long terme, c'est quand même Paul qui l'a emporté. On ne s'est pas mis en christianisme à observer la loi juive, voilà, et à observer les règles. Ça, c'est la première chose. À court terme, il est possible, et Paul, justement, ne le raconte pas, mais il est possible que ce soit Pierre qui l'ait emporté. Et c'était probablement sage. Et là, je crois qu'il faut prendre un peu le parti de Pierre et comprendre que c'était peut-être le moyen, et on en a un écho dans les décrets de l'Assemblée de Jérusalem au chapitre 15, édictés tout de suite par Jacques de Jérusalem, même s'ils ont été édictés après. Si on voulait continuer à vivre en bonne entente entre chrétiens venus du judaïsme et chrétiens venus du paganisme, il fallait accepter dans ces repas communs de respecter la cacheroute. Et puis voilà, et on n'en mourrait pas. Et Pierre, là-dessus, a certainement gardé une unité que d'ailleurs Paul va prêcher dans la première aux Corinthiens, en disant qu'il faut, si ça scandalise mon frère chrétien que je mange des viandes sacrifiées aux idoles, je ne mangerai plus jamais de viande. Donc après, Paul va prêcher ce que Pierre dit ici. Mais il sera calmé, il sera moins en colère, etc. Donc je crois que là, on a vraiment un moment où on voit finalement que ce qui a été gardé, c'est quand même l'unité entre ces chrétiens venus de mondes divers. Je me dis que, au fond, qu'est-ce qu'on a là? On a d'une part... Attendez, j'avais un truc là-dessus. Non, je ne l'ai pas. Bon. Je vous montre d'abord ce tableau. C'est un tableau que j'ai pris dans une église de Rome. C'est pas très bon. Dans une église de Rome. Je sais qu'il date du 18e. Et je sais, fin du 18e, je ne sais plus du tout dans quelle église j'ai pris ce tableau. Mais invinciblement, il m'a fait penser à l'incident d'Antioche. Alors évidemment, le tableau, il est daté. Hein. Pierre, à gauche, porte la tiare. Pierre, c'est le pape. Rome, Paul, à droite, il a une auréole quand même derrière. Paul, à droite, a une auréole, mais il porte l'épée, la parole et le livre. Alors Pierre a aussi un livre. Mais moi, ce que j'ai trouvé génial, c'était les regards. On a le regard de Paul, fermé, buté, droit son chemin, la vérité de l'évangile et rien d'autre, la radicalité. Et le regard de Pierre, à la fois bienveillant et lassé, on ne te changera pas, quoi. Je trouvais que c'est assez génial que ça reproduise bien ça. En tout cas, ce que dit ce petit texte de Paul, c'est qu'il faut tenir dans le christianisme toujours la radicalité de l'évangile. Parce qu'on ne peut pas le brader non plus, l'évangile pour tous. Il n'y a pas de condition, ni de préséance, ni de primauté des uns par rapport aux autres. C'est vraiment pour tous, quels qu'ils soient. Et ça, Paul le tient et il a raison. Et le nécessaire compromis pour l'unité. Pas partir en faire tout voler en éclats pour partir fonder sa secte de pur. Sinon, on a tout perdu. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'il y a une complémentarité qui a été perdue ensuite en oubliant Paul dans l'église romaine, qui est dommage, même si elle est sous l'égide de Pierre et de Paul, mais enfin quand même, le pape c'est Pierre. Et c'est dommage, parce qu'il faut tenir les deux, la radicalité de l'évangile, les nécessaires compromis, accueil de l'autre, et renoncement à ses propres rigidités pour l'unité. Voilà, ça je crois que c'est une grande leçon de cette lettre aux Galates. Je m'arrête là, je vous laisse la parole et après on va déjeuner. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Moi j'ai oublié les pages.
Je vais encore tenter. Moi je comprends par là, c'est l'église synodale dès le départ.
Alors, vous me définissez synodale ?
Ce dont on parle maintenant, c'est qu'il y a des divergences, mais l'objectif c'est de marcher ensemble et tenir cet équilibre entre la radicalité et l'unité.
Non, mais là vous avez complètement raison, hein. C'est vraiment tenir une unité dans une diversité de pratiques et de points de vue même. Et de, j'allais dire, ce que ça montre aussi en plus, et dans une diversité aussi de soi personnel et de goût personnel. Visiblement, Paul n'avait pas la même option, les mêmes options, les mêmes habitudes, la même façon de se situer que Pierre ou que Jacques. Et les relations entre eux n'étaient pas parfaitement amènes, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc il peut y avoir des tensions, on n'est pas obligé de s'aimer comme des fous, mais il y a un respect. Il y a un respect mutuel. La main de communion en Jésus-Christ, c'est ça. C'est le respect mutuel de l'autre différent, et n'empêche, avec lequel on va travailler. Parce qu'on a la même foi. Mais il est différent, et on n'est pas obligé de le réduire ou de se réduire à sa façon de faire ou d'être. Ça, je crois qu'on l'a beaucoup trop oublié. Et de fait, comme vous dites, c'est le principe de la synodalité. Alors, qui n'est pas facile à tenir, parce que chacun considère qu'il a la vérité. La vérité est quand même toujours au-delà. Et la vérité de l'évangile, c'est bien que c'est pour tous, sans condition, et donc pas selon les formes de monsieur un tel ou de monsieur tel autre. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord.
C'est le discernement est collectif, en fait, c'est ça, là. Oui. Que je comprends, parce qu'il n'est pas obligé de retourner à Jérusalem. Hein. Il revient à Jérusalem.
Ça, je crois que c'est très important. Et la petite expression, d'après une révélation, montre bien que son retour à Jérusalem n'est pas un repentir intérieur ou sentimental, où il faut que j'aille me renseigner. C'est, comme il le dit, d'après Voilà, c'est au fond, c'est constitutif de sa vocation. Appelez-le l'esprit, appelez le Seigneur l'esprit, enfin, il est nécessaire, s'il veut persévérer dans ce qu'il est devenu et dans sa vocation, qu'il y monte. Oui, je suis tout à fait d'accord. Se confronter aux autres et passer avec les autres une reconnaissance mutuelle qui va les envoyer sur des chemins différents. Ça, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? Questions, réactions ? Non ?
Je me posais la question, mais c'est plus que dans la même phrase, à un moment, il utilise Pierre, et juste après...
Oui, c'est... alors ça, c'est une très juste remarque, et ça pose la question. Ce qu'on répond d'habitude, ailleurs, et on le verra dans 1 Corinthiens, lorsque Paul, c'est rare, quand ça lui arrive, parle de Pierre, il dit Képhas. Ça, c'est clair. Ici, il y a un endroit où c'est Pétros. Et on se demande si ce n'est pas, au fond, une formulation, enfin, s'il ne reproduit pas quelque chose qui a été dit officiellement. Voilà. Vous voyez, une espèce de formulation plus ou moins officielle, les actes de cette rencontre. Mais tout le monde se pose la question. Alors on voit bien que Képhas correspond à Pétros, l'image grecque, c'est Pétros, qui n'était pas un nom propre hein, avant, qui est l'image du rocher. Et que Képhas dit la même chose en araméen sans être un nom bien connu. Et là, c'est peut-être parce que c'est une formulation officielle.
Sans oublier que c'était d'abord Simon.
Alors Simon, c'est son nom, hein. c'est son vrai nom, j'allais dire, c'est son nom de naissance. C'est effectivement, le nom est donné. Alors, le problème, si on veut aller jusqu'au bout du problème, parce que pour moi ça reste un problème, c'est Jésus qui donne à Simon son nom de Pierre, Pétros, c'est rapporté dans l'évangile de Matthieu. Dans un texte qui peut être un texte tardif, parce que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, les évêques de Rome... n'ont utilisé ce texte pour justifier que vers 240. Donc ils ont mis du temps. Hein. Ils se sont toujours réclamés de l'autorité apostolique de Pierre et de Paul, donc l'autorité des apôtres, mais ils n'ont utilisé ce texte que très très tard. Au milieu du 3e siècle, ça fait quand même un moment. Bon. Alors, et ce texte est écrit en grec directement. Et donc on n'entend pas parler de Képhas, on entend parler de Pétros. Et on retrouve... sous la plume de Paul, bien des années avant l'état définitif, en tout cas de l'évangile de Matthieu, qui est en grec était définitif vers 80-85, bien des années avant l'appellation Pétras, et Képhas et cette appellation Pétros. Pour moi, c'est difficile. Est-ce que dès le début, Jésus avait quand même changé le nom de Pierre en l'appelant Képhas symboliquement, et ça a été tout de suite traduit en grec Pétros, c'est possible. Ça reste une question.
Mais à la fois.
Pétros, c'est grec, Képhas, c'est araméen. Et Jésus parlait araméen. Et le jeu de mots marche mieux en grec qu'en araméen.
Mais c'est ça, ça veut aussi dire le rocher, mais dans notre vocabulaire, ça veut dire la tête aussi.
Ah non, mais ça, c'est du grec. C'est Képhas, Képhalé, la tête, c'est dans grec. Mais c'est pas en araméen.
Képhas, c'est quoi?
C'est l'araméen. C'est l'araméen. Voilà. Képhas, c'est le nom en araméen. Non, c'est parce que vous êtes parti sur Képhalé, la tête. Vous avez un encéphalogramme et une céphalée. D'accord. Vous étiez, je sais pas, vous étiez avec la tête. Oui, oui. Non, on est dans un problème linguistique difficile, rapporté par des textes d'époques différentes et dans lesquels on voit pas clair. On voit bien quand même que la tradition fait remonter à Jésus la désignation de Pierre. Voilà, la désignation de Pierre, sûrement assez tôt, ça c'est sûr. Après, oui ?
En fait, c'est que Saul est devenu Paul.
Alors, ça c'est raconté jamais par Paul lui-même. Paul ne dit jamais qu'il s'est appelé Saul et deuxièmement qu'il était citoyen romain. Jamais. C'est quand même là-dessus que joue beaucoup de choses dans les actes des apôtres, puisqu'il échappe plusieurs fois à la mort en disant « Pousse, je suis citoyen romain ». Et c'est dans les actes des apôtres qu'on apprend au chapitre 13 à Chypre, quand il passe à Chypre, qu'il est hébergé chez le gouverneur de l'île Sergius Paulus, un Romain, dont il va prendre le cognomen, c'est-à-dire le nom de plus, latin, Paulus. Et au détour d'une phrase, Paul, c'est-à-dire Saul, et ça y est, c'est fini, il est devenu Paul. Personne ne sait. Marie-Françoise Bazelaise, qui est une historienne, qui vient de mourir, qui était une amie très chère, disait, mais bien sûr, il était patronné, il a été patronné, sa famille devait connaître ce Sergius Paulus, il était patronné, comme souvent, on prend le nom de ceux qui vous patronnent pour avoir autorité, donc il a pris le nom de Sergius Paulus, peut-être. En plus, Paulos, en grec, ça veut quand même dire petit, un peu quand même faible. Vous voyez, ça donne une image un peu négative de la personne. Est-ce que ça a joué pour ce choix? On n'en sait rien. Hein. On n'a pas d'indication que quelques mots dans ce chapitre 13 des Actes des Apôtres. On voit bien qu'il est accueilli chez ce gouverneur, donc effectivement, il connaissait. L'autre, le gouverneur romain, n'accueillait pas à sa table n'importe quel juif qui passait par là. Il fallait bien qu'il connaisse, qu'il soit déjà un peu accrédité, etc. Et au détour de la phrase, tout d'un coup, il prend le nom du romain. Alors, c'était fréquent hein, qu'un juif prenne un nom romain à côté de son premier nom ou en transformant son premier nom. Ça, c'est une chose courante dans le monde gréco-romain. Mais pourquoi celui-là? Et à ce moment-là, et lui, Paul n'en dit jamais rien.
Donc c'est pas lié à sa conversion?
Ah non, dans les Actes des Apôtres, c'est bien après. Dans les Actes des Apôtres, la conversion a déjà eu lieu, il est déjà allé à Antioche, c'est largement après. En vérité, j'en sais rien. Oui ?
Est-ce qu'il y avait des communautés, des maisonnées qui étaient à la fois, qui comprenaient à la fois des judéo-chrétiens et des païens ? Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de vivre ensemble.
Oui, oui, c'est de vivre ensemble. Alors, il y en avait nécessairement parce que si il n'y en avait pas eu, s'ils étaient vraiment séparés, il n'y aurait pas eu besoin de tous ces débats. Il y en avait nécessairement. Au début, c'était tous, d'abord, des judéo-chrétiens. Donc, dans une ville, et on le sait, les Actes des Apôtres en rendent bien compte, dans la synagogue, c'est d'abord des juifs et des craignants Dieu, mais des juifs qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ et qui vont former un petit groupe avec les autres. Donc, je crois que nécessairement, au début, il y en a eu. Alors, avec une proportion qui s'est, en monde gréco-romain, inversée. On a d'abord davantage, à Antioche et ailleurs, davantage de juifs, et après la proportion s'inverse.
Sous l'action de Paul, justement.
Oui, de Paul, et puis du fait que le christianisme s'est répandu assez, par petits groupes, mais de façon très très rapide. Hein. C'est très étonnant comme phénomène. Et alors là aussi, dans la version de Bassin, elle explique par les réseaux. Ils avaient des réseaux entre les maisons. Et les lettres étaient des moyens de communication importants. Ça. Oui ?
Tout ce qu'on vient de voir met pas mal en avant l'orgueil, le mauvais caractère de Paul. Mais moi, j'avais une image quand même d'autres endroits où il est très. Il est plein d'humilité, il dit qu'il a été cherché alors qu'il n'était rien du tout.
Tout à fait, mais vous avez raison. Hein, vous avez raison, oui. Le personnage est complexe. Le personnage est complexe. Ça, c'est sûr. Et peut-être en lutte parfois contre lui-même. Mais c'est sûr aussi qu'il a su. Puisque vous voyez cette histoire des tables où il est si violent dans les Galates. Et dans la première aux Corinthiens, il dit « Je préférerais ne plus jamais manger de viande si ça peut scandaliser quelqu'un dans la communauté. » Voilà. C'est quand même un renoncement assez fort, quoi. C'est... Non, non, vous avez raison, le personnage est très complexe. Voilà. Bon, je pense que vous êtes fatiguée, non ? Alors, je vous propose deux choses. D'abord, de déjeuner. Je pense que le libraire a mis ses livres en haut, que je ne vois pas là. Donc vous avez là une petite bibliographie en bas, et puis vous allez les voir en haut, puis je passerai. Moi je pense qu'effectivement le livre de Marie-Françoise Bazelaise n'est pas théologique, mais historiquement est très intéressant. Théologique, vous avez Daniel Marguerat, c'est un excellent livre, très court. Et puis moi j'aime bien Claude Plettner, parce que elle écrit à Paul, hein, et elle attaque Paul sur tous les points où il est mal vu, connu pour eux. On sait que tu es doctrinaire, on dit que tu es misogyne, on sait ceci, on sait cela. Et elle remet pas mal les choses au point, et ça, c'est sympa. Après, plus théologique, plus aussi spirituel, les livres de Claude Tassin, Paul, un homme de prière, qui est un beau livre, tout en bas de la première page. Voilà. Mais vous regarderez en haut. Puis souvent, le libraire en apporte d'autres, parce qu'il y a pas mal de choses qui paraissent. Je n'ai mis que quelques-uns. Et nous nous retrouvons, si vous voulez bien, à 1h30. Comme ça, on finira plus tôt. Je trouve que c'est finalement mieux de... Même si ça intensifie un peu la journée.